بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc le cours numéro 10 dans l'explication de Sourate An-Nisa, le tafsir de Sourate An-Nisa de Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on a commencé à expliquer donc les versets au sujet de l'héritage. Donc juste pour revenir en arrière un peu, on avait commencé à expliquer les versets de 8 à 11. Et donc, juste pour clarifier un point, parce que c'est intéressant de l'expliquer, c'est que dans le Coran, il y a trois versets qui expliquent les règles de l'héritage. C'est le verset suivant, le verset 11, le verset 12 et le verset 176 dans Sourate An-Nisa. Donc ce sont les trois versets qui parlent des règles de l'héritage. الآيات المفصلة لأحكام الميراث الآية الأولى في بيان إرث الأصول والفروع قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Donc ça c'est le verset qu'on avait commencé à expliquer au dernier cours. Et donc juste pour relire sa signification, voici ce que Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Donc le verset 11, il explique les règles de l'héritage à propos des al-usul ou al-furu'. On a expliqué que al-usul c'est ceux de qui tu viens, hein, c'est-à-dire tes origines, tes parents, tes grands-parents. C'est ça al-usul. Et al-furu', eh bien c'est tes enfants, ta progéniture, ceux qui découlent de toi. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ce verset là, il parle de ces deux catégories, al-usul wa al-furu'. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie: voici ce que Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de deux filles. Et s'il n'y a que deux filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y a qu'une seule, une seule fille, alors à elles la moitié. Et quant aux pères et mères du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse s'il a un enfant. Et s'il n'a pas d'enfant, et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après l'exécution du testament qu'il aura fait, c'est-à-dire al-wasiyya, ou le paiement d'une dette. De vos ascendants, hein, les ascendants, c'est-à-dire les parents, al-usul, et de vos descendants, c'est-à-dire ceux qui découlent de vous, c'est Al-Furu'. Vous ne savez pas qui est le plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est certes omniscient et sage. Donc ça c'est ici par rapport au premier verset qui parle des règles de l'héritage. Le deuxième verset, c'est le verset 12. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. Donc ça c'est le deuxième verset qui parle des règles de l'héritage, et il dit dans ce verset ce qui signifie: et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent après exécution du testament qu'elles auraient fait ou un paiement d'une dette, et à elles un quart de ce que vous laissez si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elle alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. Et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors un sixième. S'ils sont plus de deux, tous deux alors participeront au tiers après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. Telle est l'injonction d'Allah, et Allah est omniscient et indulgent. Donc ça c'est le deuxième verset, et ici on dit al-ayatu fi bayani irth az-zawjayn ba'duhu min ba'dihima wa irth al-ikhwa li-um. Donc c'est à propos de l'héritage des deux époux les uns par rapport à l'autre, et de l'héritage du frère du côté de la mère. Et le troisième verset, c'est à propos de l'héritage des frères de même père et de même mère. Al-Ashiqa, et c'est le verset 176 dans Sourate An-Nisa, c'est à la fin. Donc, dans le verset 176, donc c'est le dernier verset dans Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Donc ça c'est le dernier verset, et dans ce verset là on va juste lire la traduction, j'ai oublié. Donc la signification de ça c'est ce qui suit: il te demande ce qui a été décrété, dit au sujet du défunt qui n'a pas de père, ni de mère, ni d'enfant. Allah vous donne son décret. Si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a deux sœurs ou plus, à elle alors le deux tiers de ce qu'il laisse. Et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Allah est omniscient. Donc ici, c'est des exemples des trois versets au sujet de l'héritage. D'accord ? Ces trois versets-là. Puis ensuite également, il y a bien entendu des hadiths qui expliquent l'héritage. Et les ulama de l'islam, ils ont écrit des livres pour clarifier les règles de l'héritage, pour que les musulmans puissent comprendre ce sujet-là, parce que c'est très important, puisque ça a un rapport avec les biens qu'on laisse après la mort, et de savoir comment on doit disposer de ces biens-là. Donc, parmi les livres qui ont été écrits sur ce sujet, il y a un poème que beaucoup de musulmans apprennent dans le monde, et ça s'appelle Ar-Rahabiyya. Ar-Rahabiyya ou Manzoumatul Ar-Rahabiyya fi ilm al-fara'id. Et ce livre-là, il a été expliqué par plusieurs d'entre les ulama, entre autres Cheikh Abdelaziz ibn Baz et d'autres également, et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il a également expliqué d'autres livres sur les héritages. Cheikh Salih al-Fawzan, il a un livre qu'il a écrit sur les héritages, ça s'appelle At-Tahqiqatul Mardiyya fil Mabahith al-Fardiyya. Et c'est un livre qu'il a écrit justement sur les règles de l'héritage. Et si je me souviens bien par rapport à ce livre-là, c'était le sujet de sa thèse. C'était le sujet de sa thèse de, je pense que c'était le doctorat ou la maîtrise. Allahu a'lam, je me souviens plus. Ala kulli hal, c'est un livre, maintenant il est connu, il est vendu dans les librairies musulmanes. Et on trouve dedans donc les détails des explications des règles de l'héritage en islam. Et donc, le sujet du tafsir qu'on fait maintenant, c'est certain qu'on n'est pas capable d'expliquer dedans, dans ce cours-là, toutes les différentes règles qui se rapportent à l'héritage. Mais juste de clarifier certaines règles ou certaines significations par rapport à ces versets-là. D'accord? Donc là où on s'était arrêté la dernière fois, on n'avait pas fini d'expliquer le verset 11. Donc, on va continuer à partir de l'endroit du verset où on s'était arrêté. On avait expliqué les deux filles, hein, l'héritage des filles, lorsqu'elles sont deux ou plus. On avait dit qu'elles prennent deux tiers. Maintenant, le cheikh, il dit, « Thumma qal, jalla wa ala wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma sudus, mimma tarak. » أي لأبيه وأمه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أي إذا كان للميت فرد ذكر أو أنثى قريب أو بعيد فإن للأم السدس وللأب السدس فرضا وإن بقي شيء بعد الفروض فهو للأب تعصيبا وإن لم يبق شيء فإن استغرقت الفروض جميع التركة فإنه يقتصر على السدس. نعم إن كان له ولد سواء كان هذا الولد ذكرا أو أنثى أو جماعة من الإناث أو جماعة من الذكور أو من الإناث والذكور فللأم السدس أما الأب فيأخذ السدس فرضا وإن بقي شيء من بعد الفروض فله تعصيبا. D'accord? Donc ici le cheikh il explique la suite du verset 11. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, et s'il y a, hein, on disait, ok, on avait lu pour la fille, il dit s'il n'y a que des filles, mais plus que deux, donc ça on avait lu. Il dit, et s'il y en a qu'une, ok, on a dit à la moitié, elle aura la moitié. Donc ça on a expliqué au dernier cours. Il dit ensuite, tant qu'au père et mère du défunt, à chacun d'eux, le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. Et s'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Donc ici, on a expliqué, ici dans qu'est-ce qu'on vient de lire, à propos des parents, le père et la mère, à chacun des deux, le sixième de ce qu'il a laissé. Et c'est-à-dire son père et sa mère, chacun auront un sixième, si il a un enfant. C'est-à-dire, si la personne qui est morte a un enfant, que ce soit un garçon ou une fille, hein, eh bien, il va laisser à sa mère le sixième et au père le sixième. Et ça, il dit, c'est fardan. Fardan, ça veut dire selon les proportions qui ont été déterminées dans les règles de l'héritage. Parce que l'héritage en islam, il est de deux catégories. Qu'est-ce qu'on appelle al-irth? En islam, il est de deux catégories. Il y a bil-fard wa ta'asib. Al-fard, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme fard, c'est les proportions. Et le pluriel du mot fard, c'est fara'id. Donc souvent, quand on parle de l'héritage, on va parler des fara'id, c'est-à-dire les proportions qui ont été prédéterminées par Allah subhanahu wa ta'ala dans la charia. Et c'est une des possibilités ou une des façons dont quelqu'un reçoit une part de l'héritage. Mais il y a aussi une autre façon, c'est at-ta'asib. Et at-ta'asib, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque quelqu'un il hérite de la personne qui est décédée, mais pas par rapport à une proportion prédéterminée. C'est-à-dire que at-ta'asib, ça veut dire qu'il va uniquement prendre ce qui reste après que l'héritage ait été distribué selon les proportions. D'accord? Donc, après avoir donné à chaque personne la portion qui lui revient selon la charia, s'il y a un restant, eh bien, le restant va aller à ceux qui reçoivent l'héritage par, justement, le reste. Donc, qu'est-ce qui reste? On appelle ça « ta'asib ». Donc, il y a des héritiers dans l'islam qui font partie d'une catégorie qui vont pouvoir avoir une proportion qui a été prédéterminée. Ces proportions prédéterminées-là sont de 7. Il y a la demi, le tiers, le quart, le sixième, le huitième et les deux tiers. Et il y a un septième qui a été déterminé par ijtihad des ulama, c'est le restant du tiers. Et les ulama, ils se rappellent, ils donnent un truc pour se rappeler de ces 6 premiers-là qui sont mentionnés dans le Coran. C'est en premier de commencer par la demi. Tu fais la moitié de la demi, ça fait un quart. Et tu fais de la moitié d'un quart, ça fait le huitième. Donc, tu as les 3 premiers. Puis après, tu prends le 2 tiers, tu divises par 2, ça fait un tiers. Et tu prends le 2 tiers, tu divises par 2, ça fait le 1 sixième. Donc, ça te fait les 6. Si tu te souviens de ces 6-là, eh bien, tu te souviens des 6 furud, des 6 proportions qui ont été déterminées par Allah dans le Coran. Pour chaque catégorie de ces 6 distributions, de ces 6 proportions, il y a des héritiers qui rentrent dans chacune d'elles. D'accord? Et il y en a des héritiers qui n'héritent que par la proportion. C'est-à-dire qu'ils vont uniquement avoir un héritage par rapport à ce qui a été prédéterminé dans ces 6 proportions-là. Tandis qu'il y en a d'autres qui ne peuvent prendre que le restant. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails de les énumérer, de donner les exemples, mais je veux juste vous expliquer les grandes lignes pour que vous ayez un certain compréhension de ce sujet-là. Les gens qui prennent la demi, hein, c'est l'époux, la fille, la fille du fils, le frère de même père et de même mère, et la sœur du même père. Donc vous n'avez pas besoin d'écrire ça, c'est juste des exemples que je vous donne pour que vous sachiez qu'il y a des déterminations comme ça. Mais chacune de ces personnes que j'ai données pour la demi, il y en a 5. Chacun, il a des conditions pour pouvoir avoir droit à cet héritage-là, hein, dans ces exemples-là. Le quart, hein, robot, c'est l'époux et l'épouse, ou les épouses. C'est eux qui prennent le quart, selon les conditions. Le huitième, il y en a une catégorie seulement, c'est les épouses qui prennent le huitième, à Thumun. Et le tiers, il y a la mère et les frères de même mère. Hein, le frère du côté de la mère. Les deux tiers, c'est seulement des filles qui peuvent prendre les deux tiers, c'est les filles du fils, les sœurs de même père et de même mère, et les sœurs du côté du père. Donc ça, c'est les quatre parmi les filles qui héritent du deux tiers. Et c'est seulement les filles qui ont le deux tiers. Et As-Sudus, c'est-à-dire le sixième, il y en a sept catégories qui prennent le sixième. C'est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le fils du côté de le fils de la mère, ou bien ça peut être aussi la sœur, hein, la sœur ou le frère du côté de la mère. Et le sixième, c'est la sœur du côté paternel. Et le septième, c'est la fille du fils. Donc ça, c'est pour le sixième. Donc ça, c'est les catégories. Et qui est-ce qui fait partie de ces catégories-là parmi les héritiers? Donc quand on les lit comme ça dans le Coran, dans le verset, c'est mentionné de façon, disons, rapide, comme ça, c'est des énumérations qui sont citées comme ça, mais les ulama, ils les ont classifiés, ils les ont mis en ordre, ils ont donné des explications pour chaque catégorie et ils ont établi des règles. Il y a des principes et tout ça, une fois qu'on les a étudiés par la suite, après, il y a des exercices que les savants, ils nous mentionnent, des cas, des études de cas. Donc, ils vont par exemple dire quelqu'un. Il était dans telle famille, il est mort, il avait un frère, il avait sa mère, il avait tel membre de sa famille qui était vivant, et il avait telle somme d'argent. Donc, là, ils vont commencer à dire, maintenant, déterminer qui de ces personnes-là hérite, quelle portion ils héritent, qui hérite par proportion, qui hérite en prenant le restant. Quelle proportion chacun va prendre. Et après aussi, il y a la question de savoir est-ce qu'il avait des dettes, est-ce qu'il avait un testament, et toutes ces choses-là doivent être prédéterminées. D'accord? Et y a, donc, toutes ces choses-là sont importantes à comprendre. Et donc, ici, comme on avait mentionné par rapport au sixième, et comme on avait expliqué déjà par rapport au testament, ça ne peut pas dépasser la valeur du tiers de ce que la personne possède. Et ça ne peut pas être donné à un des héritiers. Ça peut seulement être donné à quelqu'un qui est à l'extérieur des héritiers. Et c'est même recommandé par les ulama, même parmi les sahaba, il y en a qui ont mentionné que c'est mieux de laisser moins que le tiers même. Pourquoi? Parce que dans le testament. Pourquoi? Pour que tu ne laisses pas tes héritiers dans la pauvreté. D'accord? Donc c'est ça. Ici, dans cette partie qu'on est en train d'expliquer, on dit que le père et la mère, ils prennent le sixième. Et c'est ça qu'on expliquait tout à l'heure par rapport aux catégories de ceux qui prennent le sixième. On a mentionné al-ab ou al-um. Mais ça, c'est à condition qu'ils ont un enfant. D'accord? Ay in kana li hada al-mayyit waladan. Donc, le père, si après avoir, disons, après qu'on ait distribué l'héritage à chacun qui a droit à une proportion, s'il y a un restant, le père, il va prendre, yani, le restant. Il dit, s'il a un enfant, il dit, peu importe que ce soit un garçon ou une fille, un groupe de filles ou un groupe de garçons, yani, la mère, elle aura le sixième. Tandis que le père, il va prendre le sixième en tant que proportion. Et s'il y a un restant par la suite, il va le prendre hein, par ta'sib. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, que y a des gens qui prennent par rapport au restant, sans que ce soit une proportion parmi les proportions prédéterminées. Donc lui va prendre une proportion prédéterminée qui est le sixième, et s'il y a un restant, il va prendre le reste. Après, il dit, ثم قال جل وعلا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Donc, dans ce verset, dans cette partie du verset à la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si il n'a pas d'enfant et que ses parents ont hérité de lui, alors à sa mère le tiers, à sa mère le tiers. Il dit, إذا انفرد الأبوان في المال, hein, إذا انفرد الأبوان فالمال لهما تأخذ الأم الثلث فرضا والباقي يكون للأب تعصيبا لأن الله ذكر نصيب الأم ولم يذكر نصيب الأب فتأخذ الأم الثلث والباقي يكون للأب تعصيبا. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que s'ils n'ont pas d'enfants, il y a seulement le père et la mère, et qu'ils n'ont pas d'enfants. Alors dans ce cas-là, la mère, elle va prendre le tiers, ok, et le père, lui, Allah n'a pas mentionné quelle proportion il va prendre. Ça veut dire qu'il va prendre le reste. Il va prendre ce qui reste. Il dit ensuite, parce que il prend par ta'sib, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste du tiers. C'est le deux tiers. Hein? Donc il va prendre le reste. Il dit, ولكن هنا مسألتان مشكلتان وهما إذا كان مع الأبوين أحد الزوجين الزوج أو الزوجة فلو أعطيت للأم الثلث مع وجود الزوج فإنها ستزيد على الأب إذا أخذ الزوج النصف وأخذت الأم الثلث لم يبقى إلا السدس ويكون للأب هاه فيكون للأب والقاعدة المعروفة في الفرائض أن الذكر والأنثى إذا اجتمع في درجة واحدة فإنه إما أن يأخذ الذكر ضعف الأنثيين وإما أن يستوي أما أن تزيد الأنثى عليه فهذا شيء لم يعهد في الفرائض ثم قال الله تعالى فإن لم يكن له ولد فَوَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. إذا كان في المسألة أحد الزوجين فإن كان الزوج أخذ نصيبه النصف تأخذ الأم الثلث فلم يبقى إلا السدس أخذه الأب فتكون للأم زادت عليه وهذا لم يعهد في الفرائض كما أوضحنا سابقا. فاختلف العلماء في هذه وفي المسألة الزوجة إذا كان أبوان وزوجة أخذت الزوجة الربع وأخذت الأم الثلث فإن نصيب الأب سيكون مقاربا لنصيب الأم لأنه يزيد عليه شيئا يسيرا والمفروض أن يأخذ مثليهما أو مثليها أو يساويهما كما سبق. فبناء على ذلك فإن هاتين المسألتين تسميان بالعمريتين لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها إذا كان معهما زوج بأن يأخذ الزوج النصف وتأخذ الأم ثلث الباقي ويأخذ الأب الباقي فإذا كان زوج وأبوان فالمسألة من ستة يعني للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان، يعني حتى لا تزيد عليه الأم. وإذا كان في المسألة زوجة فتكون من 12، لأن فيها ربعا وفيها ثلث باقي، يعني وفيها باق، فتكون 12، تكون من 12، ويكون للزوج منها النصف 6، ويبقى 6 للأم، منها ثلث الباقي 2، ويكون للأب 4، فيكون نصيب الأب أزيد من الأم مقاربا له، فيحصل التفضيل. هذا هو قول الجمهور. ومن العلماء من أعطاها الثلث في المسألتين عملا بالنص، والله أعلم. Donc ici le cheikh il explique un point. Il explique que يعني si la mère et c'est-à-dire l'épouse et la mère doivent hériter, il dit que à la fin ça veut dire qu'il va rester que la mère va prendre plus que le père. Alors qu'en principe, dans l'islam, le père, il doit prendre, ou l'homme, il prend le double de qu'est-ce que prend la femme. Donc, il dit, ce sujet-là, ou cette question-là, ça a été une question que les ulama ont traitée et qu'ils ont appelée al-umariyatayn. Pourquoi ils les ont appelées al-umariyatayn? Parce que c'est une question dans laquelle Omar ibn al-Khattab a jugé. Et il a fait l'ijtihad, il a décrété à ce sujet, le calcul d'une façon à ce que ça tombe, pour que l'homme ait, le père ait la quantité double de ce que la femme prend. Et ça, c'est la majorité des ulama qui ont pris cette position-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les calculs ou les exemples que le cheikh il a mentionné, parce que ce serait un petit peu compliqué, mais sinon, l'important de comprendre ici, c'est que yani, la majorité des ulama ils ont pris cette position là. Sinon, parmi les ulama, il y en a d'autres qui ont dit qu'ils donnent à la mère le tiers dans les deux cas, en appliquant le texte tel quel. Wallahu ta'ala a'lam. Après le cheikh il dit: thumma qala jalla wa ala fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. هذه حالة أخرى للأم، فإن الأم لها يعني ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تأخذ السدس مع الأولاد، والحالة الثانية أن تأخذ الثلث الباقي إذا كان في المسألة أحد الزوجين، والحالة الثالثة أن تأخذ السدس إذا كان في المسألة جمع من الإخوة، إذن فنصيبها تارة يكون السدس، وتارة يكون الثلث، وتارة يكون ثلث الباقي في أحوال الأم. Donc le cheikh il dit dans le verset, dans la suite du verset, فإن كان له إخوة، s'il avait des frères, alors à sa mère le sixième, au lieu du tiers. Et ici, il dit, c'est-à-dire que ça, c'est un autre cas par rapport à la mère. Il dit donc que la mère, elle a trois situations possibles. La première situation, c'est qu'elle prenne le sixième avec ses enfants, si elle a des enfants. La deuxième situation, c'est qu'elle va prendre le tiers s'il y a un des époux qui est vivant, ou qui est présent. Et la troisième situation, c'est qu'elle prenne le sixième. Le sixième, si il y a un nombre de frères qui sont présents. Donc, parfois elle va prendre le sixième, parfois elle va prendre le tiers, et parfois elle va prendre le restant, le tiers restant. Non. Donc ça, c'est les cas, les différents cas qui ont rapport avec la situation de la mère. Il dit ففي قوله, il dit ensuite ففي قوله تعالى فإن كان له إخوة لأم فلأمه السدس فالإخوة يجحبون الأم من الثلث إلى السدس ولو فرضنا أن في المسألة أبوين وجمعا من الإخوة اثنتين فأكثر، فإن الأم تأخذ السدس والباقي يكون للأب ولا شيء للإخوة، لأن الأب يجحبهم، فهم حجبوا بالأب وحجبوا الأم من الثلث إلى السدس. والمراد بالإخوة اثنان فأكثر، لأن أقل الجمع اثنان، فإذا كان هناك أخوان فأكثر، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، فإنه ليس للأم إلا السدس، عملا بهذه الآية الكريمة. Donc ici le cheikh il explique la suite du verset, il dit et si il a des frères, alors dans ce cas-là à la mère le sixième. Le cheikh il explique que les frères ils coupent la mère du tiers au sixième, parce que il y a une catégorie justement où il y a une chose qu'on appelle le hajb aussi. C'est-à-dire qu'il y a certains héritiers qui bloquent d'autres à certains moments. C'est-à-dire que si eux, ils sont présents, d'autres ne vont pas hériter. S'ils ne sont pas présents, les autres pourront hériter. Et dans certains cas, si certains sont présents, ils font changer la proportion ou diminuer la portion de l'autre. L'exemple, ici, c'est l'exemple des frères. Donc si la personne, il meurt, il a des frères, et puis en même temps, sa mère est vivante, eh bien, les frères font que la mère, elle passe du tiers au sixième. Et donc, si on suppose que dans cet exemple-là, les deux parents, il y a les deux parents, le père et la mère, et qu'il y a des frères qui sont plus que deux. Alors, il dit à ce moment-là, la mère, elle va prendre le sixième et le restant sera au père. Et les frères n'auront rien. Pourquoi? Parce que le père, il les bloque. D'accord? Alors, eux, ils ont été bloqués par le père et eux, ils bloquent la mère du tiers au sixième. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le hajb. Et ça fait partie des règles importantes aussi à comprendre par rapport à l'héritage, de savoir qui est un bloc pour ou qui empêche un autre parmi les héritiers de prendre certaines parties de l'héritage. C'est ça. C'est dans Al-Mulakhas al-Fiqh, il y a un chapitre, ça s'appelle Bab al-Hajb. C'est justement à propos de ça. Et al-hajb, dans la langue, ça veut dire al-man', ça veut dire empêcher. Donc c'est comme si certains héritiers, ils empêchent d'autres de prendre une part quelconque. À cause de la façon soit à cause du rang, ou soit à cause de l'ordre, ou soit à cause de différentes raisons comme ça. Et c'est ça. Soit qu'ils vont empêcher de prendre au complet, ou soit qu'ils vont empêcher de prendre une part. Hein? Et il y a des règles par rapport à ça, puis il y a des conditions aussi. Et il y a des catégories dans ces choses-là. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut connaître pour être capable d'appliquer cette science de l'héritage. Ensuite, le cheikh dit, en ce qui concerne les frères, quand on parle des frères, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient deux ou plus. Parce que le minimum pour le pluriel en arabe, c'est deux. Donc le duel est considéré comme un pluriel aussi. Et donc s'il y a des frères qui sont présents, donc c'est ça, que ce soit des frères de même père et de même mère, alaykoum salam, ou des frères du côté du père, ou des frères du côté de la mère, et donc si eux ils sont présents, alors ça veut dire que la mère, si elle va hériter, elle va hériter seulement le sixième au lieu du tiers. Hein, en appliquant ce verset-là. ثم قال من بعد وصية يوصى بها أو دين أي أن الميراث إنما يأتي بعد إيفاء الدين فإذا كان على الميت دين فإنه يبدأ به ويسدد، والباقي بعد الدين يعني تخرج منه الوصية. فإذا كانت في حدود الثلث فأقل، ثم بقي بعد الدين وبعد الوصية، يكون للورثة على هذا الترتيب. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il dit après avoir donné le testament, payé à donner aux gens qui sont mentionnés dans le testament, ou une dette qui devait être payée. Et le cheikh il dit donc que l'héritage c'est seulement payé ou donné aux héritiers après avoir réglé les dettes pour le mort, s'il avait des dettes à payer. Et il dit, en ce qui concerne, s'il reste de l'argent après avoir payé les dettes, on va prendre donc le testament, qu'est-ce qui a été donné dans le testament, et c'est dans les limites du tiers, comme on avait expliqué, ou moins. Puis, s'il reste quelque chose de l'argent après la dette et après le testament, alors là, on va commencer à diviser entre les héritiers. D'accord ? فإن قلت لماذا قدمتم الدين على الوصية والله جل وعلا ذكر الوصية قبل الدين فقال يعني من بعد وصية يوصي بها أو دين فالجواب أن هذا هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بدأ بالدين قبل الوصية وإنما ذكرت الوصية قبل الدين في الآية وإن كانت متأخرة عنه في التنفيذ لأن جانب الوصية ضعيف فيخشى أن يتساهل فيها أما الدين فله أن يطالب به فلذلك قدم الله الوصية على الدين اهتماما بها يعني لأن لا يتساهل فيها الورثة. Donc ici le cheikh il explique que en ce qui concerne l'héritage, c'est-à-dire par rapport au testament et à la dette. Il dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le testament avant la dette. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Donc il dit dans ce cas-là, pourquoi vous mentionnez qu'il faut donner le testament, la dette avant le testament, avant de régler le testament? Il dit parce que, le cheikh il dit parce que dans la sunna, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'application du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours pris la dette en premier avant le testament. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le testament dans le verset avant la dette, c'est parce que des fois les gens ils l'oublient ou bien le négligent. Alors il le mentionne pour pas que les gens prennent le testament à la légère. Tandis que la dette, c'est quelque chose que les gens viennent pour demander déjà. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc le testament en premier pour montrer l'importance qu'il faut lui donner et pour pas que les gens parmi les héritiers prennent ça à la légère. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, on continuera la suite au prochain cours bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.